Parler de l'évolution n'a jamais été neutre. Depuis la parution, il y a 150 ans, du livre de Darwin de l'évolution des espèces, la vision traditionnelle de l'apparition de la vie a été bouleversée. Une sorte de révolution de la pensée qui a entraîné bon nombre de malentendus et de désaccords. Les esprits ont évolué et eux aussi, le dialogue s'est instauré. Distinguer l'évolution du point de vue de la description scientifique et du point de vue de la philosophie et de la théologie apparaît désormais indispensable et nullement problématique. C'est la conviction de Dominique Lambert, professeur de philosophie des sciences aux facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Paix à Namur, en Belgique.
Il faut chercher une articulation entre ces deux visions, et cette articulation peut se faire par la médiation d'une philosophie. Mais dans un premier temps, il importe de distinguer méthodologiquement, épistémologiquement les niveaux pour ne pas tomber dans la confusion qui est justement l'erreur du concordisme et d'une série de versions d'un créationnisme qu'il ne faut certainement pas confondre avec une approche théologique de la création. Bon nombre de personnes confondent justement approche théologique de la création avec certaines versions du créationnisme. Mais l'écueil majeur du créationnisme est justement de ne pas faire cette distinction méthodologique qu'il faut bien sûr après appréhender dans une vision qui articule science et foi, fides et ratio, mais par la médiation d'un niveau qui serait le niveau proprement philosophique.
De la part des scientifiques, la dimension biologique de l'homme n'est pas antagoniste avec sa dimension spirituelle. Ce sont deux niveaux de compréhension qui ne s'opposent pas nécessairement. Anne Dambricourt-Malassé, paléoanthropologue au Muséum d'histoire naturelle de Paris, chargé de recherche au CNRS.
C'est dans la nature humaine d'être à la fois résultat d'une évolution que nous cherchons à comprendre et cette nécessité de donner du sens à la vie, à notre vie en particulier. Et ça me paraît tout à fait nécessaire et même normal de la part de l'être humain de s'intéresser à son unité, d'essayer de trouver une cohérence, même si ça n'est pas toujours facile. En tout cas, c'est un travail nécessaire.
L'évolution de l'espèce humaine, comme celle des autres espèces, est donc un fait acquis, admis, seulement contesté par les créationnistes purs et durs. Ce n'est pas pour autant que cette dimension purement biologique de l'homme évacue les questions d'ordre plus philosophique ou théologique. Anne Dambricourt-Malassé.
Est-ce que l'homme s'inscrit dans un processus ? Qu'est-ce qui est attendu de nous-mêmes en tant qu'espèce, fruit de l'évolution, et en tant qu'espèce consciente, donc responsable ? Il n'y a pas de raison de supposer que l'évolution, en tout cas celle qui est en amont de l'homme, il n'y a pas de raison que ce processus s'arrête, que l'évolution s'arrête. Être conscient de l'évolution nous responsabilise par rapport à nous-mêmes. Nous sommes la seule espèce à être consciente de l'environnement et c'est ce qui nous donne cette dimension aussi d'une certaine responsabilité. Au contraire, c'est parce que nous sommes le fruit de l'évolution que la notion de responsabilité prend son sens. Et la responsabilité n'est pas une question scientifique, c'est une question humaine. C'est au-delà de la science.
Moqué à ses débuts par ses détracteurs, Darwin était souvent caricaturé sous les traits d'un singe. C'est de cette époque que date l'expression « l'homme descend du singe ». Mais la science a démontré qu'en effet, hommes et grands singes comme les chimpanzés, les orang-outans ou les gorilles sont bel et bien cousins. Mais si le premier a évolué considérablement, les seconds ont très peu changé depuis des millions d'années. L'explication à cela n'a pas encore été trouvée et la réponse peut-être viendra du croisement de l'enseignement de plusieurs disciplines scientifiques. Mais à côté de cette évolution proprement physique, il y a un autre type d'évolution, nous explique Dominique Lambert.
Cette évolution-là n'est plus régie par la sélection naturelle. D'ailleurs, Darwin disait lui-même que la sélection naturelle avait d'une certaine manière amené à des systèmes l'homme capable de s'opposer éventuellement à la sélection naturelle. Et de fait, l'évolution de l'homme aujourd'hui, c'est finalement de pouvoir faire vivre un certain nombre de personnes qui seraient handicapées, que la sélection naturelle peut-être aurait laissé sur le côté. La partie la plus noble de l'homme, dit Darwin, c'est d'une certaine manière d'avoir construit ces hôpitaux, d'avoir permis à ces personnes handicapés de pouvoir survivre. Et donc moi je crois que l'évolution de l'homme passe plutôt par cette capacité de pouvoir prendre en charge les personnes vulnérables, la fragilité et en même temps de pouvoir accroître la connaissance sur l'univers, sur l'homme, etc. Donc pour moi, l'évolution, elle est plutôt dans ce monde de la culture, de la pensée et de l'amour.
Et c'est là qu'intervient la théologie pour nous expliquer le message que Dieu a porté aux hommes. Ce message d'amour dont on voit mal l'incompatibilité avec l'évolution de l'homme. Une évolution perpétuelle d'une certaine manière pour toujours se rapprocher et tendre vers Dieu et son enseignement.